pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule d'Aumale et Totor, et qu'on parle de foutre tout par terre, j'applaudis d'Achard et d'Autor. C'est d'une simplicité biblique, d'abord. Faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise pendant que nous on a un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors, c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Ah, il y aura plus de chef, plus de contremaître. Oh, plus de directeur et plus de patron. Mince qu'on pourra tirer sa flemme. On fera tous les jours lundi.
Oui, mais s'il n'y a plus de la trompème, qui fera la paye le samedi?
Dites-moi, avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée. Que ne sert
Requiem pour un twister?
Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun?
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Sylvie, du groupe Libertaire d'Ivry. Mmh. Eh bien, nous allons poursuivre des lectures d'un extrait de Les Inventeurs de maladies de Jörg Blech. Manœuvre et manipulation de l'industrie pharmaceutique, pour la peut-être 9e fois. Et donc c'est un livre qui a été édité en 2008, avril 2008, dans sa première édition, aux éditions Babel, voilà. Et auparavant, une petite brève... du Monde du 27 février. On revient un peu là-dessus, oui. À propos de l'attentat de Mulhouse, le gouvernement renforce le suivi psychiatrique des fichiers pour radicalisation. L'objectif est de mobiliser les psychiatres des groupes d'évaluation départementaux, instances chargées d'évaluer la situation des personnes fichées pour radicalisation. Les soignants devront identifier les personnes atteintes de troubles psychiatriques et vérifier qu'elles sont suivies. Donc un article du Monde. Le gouvernement a demandé au préfet, dans la foulée de l'attentat de Mulhouse, de mieux s'assurer du suivi psychiatrique des personnes fichées dans le cadre de la prévention du terrorisme, selon une circulaire consultée jeudi 27 février par l'agence France Presse. Ce document, qui remonte au mercredi, émane des ministères de l'Intérieur et de la Santé, entend que les préfets vérifient le bon suivi socio-sanitaire des individus inscrits au FSPRT, le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. La circulaire fait explicitement mention de l'attentat de Mulhouse au cours duquel un passant a été tué au couteau. Le suspect, un Algérien en situation irrégulière, était fiché au FSPRT et par ailleurs présentait un profil entre guillemets schizophrène selon le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il a demandé à l'ensemble des préfets de se rapprocher sans délai des directeurs généraux des agences régionales de santé, selon la circulaire. L'objectif est de mobiliser les psychiatres des groupes d'évaluation départementaux, instance chargée d'évaluer la situation des personnes fichées pour radicalisation. Les soignants devront identifier les personnes atteintes de troubles psychiatriques et vérifier qu'elles sont suivies. Les individus dont la prise en charge n'était pas assurée antérieurement devront être adressés vers un établissement de santé ou un professionnel de santé en ville, poursuit le document. La pertinence de mesures d'hospitalisation sera aussi étudiée, est-il précisé. Les préfets veilleront à assurer le suivi des étrangers en situation irrégulière concernés, y compris lors de leur placement en rétention ou s'ils sont assignés à résidence, ajoute la circulaire. Le suivi psychiatrique des auteurs d'attentats a déjà fait l'objet de polémiques. Fin 2023, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, avait critiqué un ratage sur ce plan après une attaque meurtrière au couteau commise près de la tour Eiffel par un homme fiché pour islamisme radical. Cette prise de position avait été vivement critiquée par nombre de psychiatres, estimant que leur profession servait de bouc émissaire au pouvoir public. Voilà, c'est une... un article du Monde et de l'AFP. Alors, quel petit commentaire on peut faire là-dessus, c'est que le fichier, il existe un fichier, c'est OpsiWeb, qui fait justement le lien entre les fichiers des psychiatrisés et les fichiers pour terrorisme. Et donc une passerelle qui s'est construite là, et donc effectivement s'assurer du suivi psychiatrique des personnes fichées comme terroristes, mais ça fait aussi que l'on scrute le fichier des psychiatrisés pour y déceler ou non des terroristes. Donc ça va aussi dans l'autre sens.
Et une question naïve sur là-dessus, comme dans tous les domaines, hein, je dirais, mais est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un cas de schizophrène potentiellement ou réellement terroriste qui aurait été soigné par la psychiatrie? Non, mais
c'est une bonne question, mais oui. Évidemment, nous n'avons pas de réponse.
Non.
Et
je pense que la réponse est non, hein, puis c'est tout.
Et sachant que bien les étrangers en situation irrégulière sont, disons, déjà considérés comme potentiellement terroristes, mais qui peuvent être psychiatrisés aussi. Et donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout au niveau de l'abus, quoi. Donc voilà, nous allons passer à la lecture donc d'un chapitre, ou plutôt l'extrait, un long extrait d'un chapitre qui est intitulé « Contes et légendes de la médecine moderne » du livre « Les inventeurs de maladies » de Jörg Blech. Alors, chaque année, l'industrie pharmaceutique dépense entre 8 000 et 13 000 euros par médecin dans des actions de marketing qui doivent inciter le médecin à prescrire les comprimés et les produits de l'entreprise.
Est-ce que tu peux repréciser la date de publication de ce livre qui, par ailleurs, est épuisé ?
Alors, texte Ah oui, alors c'est vrai que là...
À cause des chiffres, si tu veux, qu'il faudra réactualiser, je suppose.
J'ai dit que c'était en 2008.
Oui, 2008, oui.
Et en fait, c'est même le... il y a un, c'est un copyright de, d'une édition de Actes Sud de 2005.
D'accord, donc en fait, les chiffres ont 20 ans. Voilà. Je ne sais pas trop comment on réactualise ça, mais c'est pour dire que c'est bien supérieur, probablement. Là,
c'est... Voilà, c'est, et puis là, en plus, l'auteur est allemand, donc on a aussi l'Allemagne comme référence.
Enfin, c'est beaucoup, en tout cas, ça c'est sûr.
Donc, dans des actions de marketing qui doivent inciter le médecin à prescrire les comprimés et les produits de l'entreprise. Médecins installés et médecins hospitaliers sont ainsi véritablement pris d'assaut par les délégués des laboratoires. À elle seule, l'entreprise GlaxoSmithKline emploie en Europe et aux États-Unis une armée de 17 000 visiteurs médicaux. Aux États-Unis, le nombre total de vendeurs de produits pharmaceutiques a augmenté de 110% entre 1996 et 2001, passant de 42 000 à 88 000 visiteurs médicaux. En raison de cette affluence, le temps qu'un médecin peut consacrer aux nombreux visiteurs a tellement diminué qu'il est devenu une valeur marchande à part entière. C'est ce filon que l'entreprise Time Concept, dont le siège est aux États-Unis dans le Kentucky, a choisi d'exploiter. Pour $105, elle fournit aux visiteurs médicaux un entretien de 10 minutes avec un médecin. Time Concept encaisse $50, tout comme le médecin, qui peut en outre choisir l'œuvre de bienfaisance à laquelle seront versés les $5 restants. Le système de rémunération de Time Concept a au moins l'avantage d'être plus franc que les pratiques traditionnelles. D'habitude, les vendeurs des médicaments et de matériel briguent les bonnes grâces des médecins en distribuant invitations à déjeuner, billets de congrès vers des destinations exotiques et autres avantages. Même les étudiants en médecine en fin d'études reçoivent des cadeaux de la part des laboratoires pharmaceutiques. Les internes des hôpitaux universitaires américains sont ainsi invités presque tous les jours à déjeuner, même s'il ne s'agit alors que d'une pizza. Les médecins qui fréquentent les séminaires de l'industrie peuvent quant à eux compter sur un repas dans un restaurant chic. La frontière qui sépare le marketing autorisé de pratiques de rétribution illégale est floue. Pour le Gas and Go, par exemple, le médecin et le visiteur médical se retrouvent dans une station-service. Le délégué du laboratoire a ainsi la possibilité de présenter ses produits et paie en échange la facture d'essence du médecin. En mars 2002, le parquet de Munich a ouvert une instruction contre plusieurs milliers de médecins allemands et des collaborateurs du groupe SmithKline Beecham. Présomption de prise illégale d'intérêt, corruption passive et complicité par assistance à soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt, tels étaient les chefs d'accusation des procureurs qui procédèrent à la saisie de nombreux documents au siège de l'entreprise. D'après les dossiers émis par des agences de voyage, certains médecins auraient accepté des invitations à la finale de la Coupe du Monde de football à Paris en 1998, ainsi qu'à des courses de Formule 1. En outre, le laboratoire pharmaceutique aurait, conformément aux soupçons émis, financé des livres et des ordinateurs. De tels scandales révoltent régulièrement la population et viennent conforter le cliché de l'escroc en blanc. Toutefois, les médecins qui se laissent directement acheter par l'industrie restent une exception. Les mécanismes subtils par lesquels l'industrie agit sur le quotidien des médecins sont en revanche bien plus répandus et par conséquent bien plus inquiétants. Or, la promiscuité qui existe entre les entreprises et les médecins est aujourd'hui acceptée comme un fait allant de soi. En Allemagne, la plupart des formations continues destinées aux médecins sont ainsi ouvertement financées par l'industrie pharmaceutique. Seule une part infime des manifestations est officiellement considérée comme indépendante. Une enquête de Peter Sawicki, médecin-chef à Cologne, et de deux de ses confrères de l'Académie de Rhénanie du Nord pour la formation médicale continue, a cependant démontré que, même dans le cas de ces formations dites indépendantes, il faut en réalité compter avec la présence des fabricants de médicaments. Pour 32 des 51 manifestations analysées, l'enquête révélait en effet la participation indéniable d'entreprises telles que Roche, Bayer, Pfizer et Host à ces séminaires prétendument indépendants.
Juste une question, tu sais peut-être ça. Tu as cité Bayer, est-ce que c'est les mêmes Bayer qui produisent les produits toxiques, tu sais, par rapport aux plantes et tout ça ? C'est les mêmes ?
Il me semble.
Oui, je crois bien.
Des stylos à billes et des blocs aux couleurs des laboratoires étaient prévus pour les médecins, ainsi que des encas et des boissons distribuées pendant les pauses. Et pour la moitié des manifestations, la journée se terminait par un dîner. Peter Savicki doute de ce que la présence des laboratoires pharmaceutiques puisse ne pas porter à conséquence. Je cite « Il est en effet à craindre que le choix des conférenciers et le contenu des manifestations soient influencés par les intérêts économiques des entreprises concernées. » Alors, avec les compliments de l'industrie. Les prétendus progrès de la médecine ont atteint une telle démesure que seule une infime part des médecins parvient encore à se repérer dans la jungle des diagnostics et traitements possibles. Cette situation a motivé la création de guidelines devant permettre une meilleure orientation. Formulées par des experts en médecine, bien souvent après d'âpres négociations, ces directives médicales ont pour objectif d'aider une foule de collègues moins spécialisés à agir selon l'état le plus récent des connaissances scientifiques. Qu'un traitement médicamenteux soit recommandé dans une directive, et c'est le fabricant qui, pour ainsi dire, encaisse un chèque en blanc, qui plus est avec l'assentiment de l'état. Les découvertes de chercheurs réunis autour d'Alan Detsky, médecin au Mount Sinai Hospital de Toronto, n'en sont que plus retentissantes. Celles-ci révèlent en effet que les directives médicales sont, dans une mesure inquiétante, soumises à l'influence de l'industrie. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs de Toronto s'adressèrent par courrier à 192 auteurs de directives en Europe et en Amérique du Nord, les questionnant sur d'éventuels liens avec l'industrie pharmaceutique. Fait intéressant, la moitié des médecins interrogés préférèrent d'emblée s'abstenir de toute réponse. L'analyse des 100 réponses qui purent être collectées fournit les résultats suivants. 87% des rédacteurs de directives entretenaient de manière générale des liens avec l'industrie pharmaceutique. 59% d'entre eux avaient des liens avec les entreprises dont ils avaient conseillé les produits dans des directives. 38% étaient conseillers ou même employés des entreprises pharmaceutiques. Et 6% détenaient des actions dans les entreprises en question.
Et encore, ça, c'est ceux qui l'ont joué frangeux, enfin, je veux dire, oui. On ne sait pas combien on préférait s'abstenir de le dire. Enfin, ça paraît logique que plein de médecins n'aient pas tellement eu envie de dire qu'en effet, ils étaient peut-être un peu achetés. C'est... Oui. Donc, le chiffre doit être largement pire que ça, je pense.
Parmi toutes les directives analysées, il s'en trouvait en outre aucune qui aurait été élaborée indépendamment des fabricants de médicaments. Je cite « Il semble ainsi exister un nombre considérable d'interactions entre les auteurs de directives cliniques et l'industrie pharmaceutique », constate Alan Detsky avec sobriété tout en s'inquiétant. « Ce type d'interaction pourrait bien influencer les habitudes d'un très grand nombre de médecins ». Fin de citation. Critique, les scientifiques de Toronto revendiquent ce qui semble a priori tout naturel. À l'avenir, tous les conflits d'intérêts des auteurs devraient figurer dans les directives médicales. En outre, les médecins dont les conflits d'intérêts sont significatifs devraient par principe être exclus de la rédaction des directives. Reste à savoir comment déterminer les liens entre médecins et industrie qui sont significatifs et ceux qui ne le sont pas. Alan Detsky, conscient de la difficulté qu'il y a ici à tracer une frontière nette, s'interroge avec ironie. Y a-t-il un seuil en deçà duquel les auteurs ne sont pas soumis à l'influence inconsciente de leurs liens avec l'industrie pharmaceutique ? Une image trompeuse, l'intégrité de la recherche. Des interconnexions entre le commerce et la médecine structurent l'ensemble de la sphère médicale. Les médecins conseillent les fabricants de médicaments et testent leurs principes actifs lors d'études cliniques. Ils sont membres des advisory boards, ces collège en apparence indépendant qui entre en scène juste au moment du lancement des médicaments. Professeur spécialiste de la santé de la femme à l'Université libre de Berlin, Martina Doren craint que les médecins ne se retrouvent ainsi dans un rapport de dépendance. Je cite « Les associations professionnelles ne disposant que de fonds réduits approvisionnés selon le principe de cotisation des membres, le fait est que le congrès ne pourrait plus exister sans le soutien financier des laboratoires pharmaceutiques. » Fin de citation. Asmus Finzen, psychiatre à Bâle, observe lui aussi avec une inquiétude grandissante le couple que forment médecine et commerce. Les chercheurs, je cite, « interviennent en tant que représentants permanents lors de réunions d'entreprises, signent des publications rédigées par des nègres de l'industrie et se font les défenseurs de certains médicaments ou appareils lors de manifestations financées par les entreprises. » Ils acceptent des cadeaux de grande valeur et se font offrir des voyages de luxe. Ils concluent des brevets et des contrats de participation et possèdent des parts dans l'entreprise sous la forme d'actions ou d'options. » Fin de citation. Tel était le triste bilan que dressait Asmus Finzen dans le Deutsches Arzteblatt, soulignant en outre « Certes, tous les chercheurs en médecine ne sont pas liés à l'industrie par des relations identiques ou similaires, mais ils sont nombreux. » En Allemagne, il n'est pas rare que les professeurs de médecine et les cliniciens soient chargés par des entreprises d'intervenir lors de conférences de presse, empochant à cette occasion des honoraires considérables. Dans le cadre de l'opinion Leader Management ou gestion des leaders d'opinion, les commerciaux des laboratoires pharmaceutiques tentent donc de recruter des médecins prêts à intervenir en public contre rémunération, tout en servant les intérêts de l'entreprise. Avant de commencer sa prestation, le médecin doit ainsi informer le laboratoire pharmaceutique des diapositives qu'il souhaite passer lors de sa conférence. À l'occasion de ces slide reviews, il arrive ainsi que l'entreprise veuille retirer de la conférence la moitié des diapositives, raconte Armut Porst, urologue à Hambourg. La reconnaissance du ventre. Si l'on en fait le reproche aux médecins, ceux-ci se défendent vigoureusement de ce que leurs liens financiers avec l'industrie pourraient influencer leur travail et leur jugement. En tant que scientifiques, ils s'estiment en effet capables de préserver leur objectivité. Selon eux, il importe donc peu de savoir par qui sont financées leurs recherches. Même quand ils acceptent des voyages vers des destinations luxueuses, les médecins démentent toute influence de l'industrie, déclare Suzanne Coil. Dans une vaste étude, cette spécialiste en bioéthique a décrit pour le compte de la Société américaine de médecine interne l'influence de l'industrie pharmaceutique sur les médecins. Son enquête démontre que l'indépendance de ces derniers est clairement menacée. Des analyses scientifiques révèlent que le fait d'accepter des présents de l'industrie et celui de pencher en faveur des produits correspondants sont indéniablement liés. Le groupe de chercheurs réunis autour de Henry Stelfox de l'Université de Toronto en apporte par exemple la preuve en s'appuyant sur l'exemple d'un médicament sujet à controverse, les inhibiteurs calciques. Les chercheurs ont lu 70 publications sur le sujet et les ont réparties en trois catégories, critiques, neutres, ou favorable. Par l'intermédiaire de questionnaires, ils ont ensuite demandé aux auteurs de ces publications dans quelle mesure ceux-ci avaient bénéficié de dons de l'industrie. Le résultat de l'étude est indiscutable. Tous les auteurs qui avaient fait l'éloge du médicament avaient, d'une manière ou d'une autre, bénéficié des largesses de l'industrie. Dans 96% des cas, les défenseurs du médicament avaient reçu une somme d'argent de la part du fabricant de ce produit. Pour comparaison, seuls 37% des médecins critiques avaient accepté de l'argent de l'industrie. L'arme la plus efficace des vendeurs de maladies, ce sont les études publiées dans les revues médicales et qui semblent attester l'utilité du médicament. Ces articles sont souvent décisifs quant à l'autorisation ou non d'une nouvelle molécule. En outre, ils déterminent si et dans quelle mesure les médecins auront ensuite recours à ce médicament. Or, ces comptes rendus spécialisés, apparemment objectifs, sont dans bien des cas soumis à l'influence de l'industrie pharmaceutique. Lisa Kjærgaard, médecin au centre hospitalier universitaire de Copenhague, a ainsi analysé 159 articles spécialisés relevant de 12 disciplines médicales différentes et en conclut: lorsque les chercheurs travaillent pour le compte de l'industrie, leur jugement quant à l'utilité de la forme thérapeutique analysée est, plus souvent qu'en moyenne, positif. Une étude publiée par le médecin californien Thomas Bodenheimer dans le New England Journal of Medicine révèle également l'emprise nette, voire frappante, que l'industrie exerce sur les études cliniques. Les laboratoires pharmaceutiques censurent, embellissent et modifient les résultats des études qu'ils confient à des chercheurs indépendants. 6 des 12 chercheurs que Bodenheimer a interrogés avouaient ainsi qu'on avait influé sur leur travail. Les résultats jugés déplaisants du point de vue de l'entreprise n'avaient pas été publiés ou avaient été manipulés.
Encore une fois, comme on l'a dit les fois précédentes, on l'avait dit quand même, ce qui se passe avec les médicaments, avec l'industrie du médicament, c'est ce qui se passe d'une manière générale par rapport, il n'y a pas de différence fondamentale avec le principe même du capitalisme, c'est-à-dire aucun scrupule, le pognon excuse absolument tout, tous les moyens sont bons. Et en effet, finalement, ce qui est surtout choquant, c'est que dans ce domaine-là, beaucoup de gens s'imaginent premièrement que les capitalistes auraient quand même des limites, je veux dire morales, quoi. Quand même, on peut s'en prendre. Par exemple, on voit dans Bonheur des Dames de Zola, il énonce tous les principes fondamentaux du capitalisme. Mais enfin bon, ça consiste, d'accord, un peu à ruiner les ménages et tout, et puis que les femmes s'achètent des fanfreluches dont elles n'ont pas forcément besoin. Mais là, quelque part, on voit jusqu'où peut aller finalement. Peut aller la vilenie et l'absence totale de scrupules que peuvent avoir des gens qui ont quelque chose à vendre, quoi. Et en effet, il peut y avoir quand même une... Il y a aussi l'idée du respect du médecin. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de Knock, dont tu liras encore un passage tout à l'heure, oui. Et j'ai vu le film. Et d'ailleurs, c'est frappant parce que comme le livre date de 1923... Le film daté de 1951, mais le livre date de 1923. Donc, on voit que en fait, à l'époque, c'est le médecin qui démarche le pharmacien, en fait. Mais la raison pour laquelle les gens se laissent embobiner par Knock, c'est parce que c'est à cause d'une espèce de respect qu'il y a en général pour les gens qui ont un diplôme, quelqu'un qui a l'air sérieux, parce que Louis Jouvet, c'est pas Gérard Jugnot, je veux dire, c'est un mec qui a l'air quand même, enfin bon, tu te dis c'est pas un marrant, tu t'imagines pas qu'il se fout de la gueule du monde, ce qui est pourtant complètement le cas, mais c'est lui qui démarche à ce moment-là le pharmacien, donc je me demande quand est-ce que c'est systématisé, parce que ça remonte quand même à très vieux, hein, l'idée des visiteurs médicaux qui viennent voir le médecin en disant connaissez-vous ce médicament. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est fait au débotté de façon peut-être moins massive, mais sur le principe que ça remonte à quand même très vieux, parce que à l'époque en tout cas personne n'a eu l'idée d'aller démarcher Knock, par exemple. C'est Knock qui démarche le pharmacien pour que finalement il soit plutôt son complice.
Oui.
Voilà, donc, le pharmacien, lui, il est même un peu dubitatif, il dit mais je vends rien, jamais, vous croyez vraiment que, et tout. Et on se dit d'ailleurs quel est l'intérêt de Knock dans le fait d'avoir un complice dans la personne du pharmacien. Je suppose c'est déjà qu'ils disent pas, mais vous ne pouvez pas prendre ça, c'est n'importe quoi. Enfin, si jamais c'est des médicaments totalement inutiles. Et puis peut-être aussi que tu te demandes pourquoi il recherche la complicité du pharmacien. Peut-être qu'il se dit qu'après tout, les médicaments vont rendre les gens réellement malades, et que du coup, s'ils avaient le moindre doute sur la réalité de leur maladie, le doute serait élevé parce qu'ils tomberaient réellement malades à cause des médicaments. Enfin, c'est une hypothèse. Je ne sais pas comment tu as vu ça, toi, par rapport aux les rapports avec le pharmacien.
Moi, l'idée du rapport avec le pharmacien, c'est C'est surtout que d'avoir le soutien du pharmacien aussi.
Oui, oui. Mais à quoi ça lui sert d'avoir le soutien du pharmacien? C'est la question que je me pose. Après tout, il pourrait avoir un pharmacien qui se contente de débiter son, de vendre ce qui a marqué sur l'ordonnance, ce qui est quand même souvent le cas. Enfin, c'est rare qu'un pharmacien te dise ah non.
Peut-être que dans cette œuvre de Jules Romain, le pharmacien justement incarne l'industrie, enfin disons une espèce d'incarnation de l'industrie peut-être, ou disons que l'industrie n'est pas comment dire évoquée dans cette pièce donc directement, alors c'est peut-être le pharmacien qui la représente.
Ben justement je me demande, parce que je sais pas précisément à quand exactement remonte la pratique des visiteurs médicaux. Donc, ben, du fait que qu'il y ait une démarche active des laboratoires envers les médecins, ce qui a quand même, ce qui est quand même le béaba, parce que dans le principe capitaliste général, c'est la publicité tout simplement. Oui. Et la publicité directe fonctionne dans des tas de domaines, ça fonctionne encore mieux que la publicité médiatique, par exemple. Je me rappelle des trucs du genre Tupperware avant, enfin des trucs où il y avait une espèce de rapport de proximité finalement avec le client. Ça marche du feu de Dieu, ça marche encore mieux si jamais aussi tu je sais pas, ceux qui payent les magasins pour avoir une tête de gondole, donc il y a vraiment une démarche active du distributeur. Mais je sais pas quand ça remonte, en tout cas c'est pas du tout évoqué à l'époque. Alors bon, évidemment, quel visiteur médical pharmaceutique, je veux dire, aurait démarché un médecin qui n'avait aucun client, ce qui est le cas de Knock au début.
Voilà, je pense que c'est là qu'on rejoint.
Est-ce que dans les villes, par exemple, la pratique existait déjà? Parce que je trouve que c'est une bonne idée marketing. Tu vois, dans Bonheur des Dames, on voit toutes les idées marketing que peut développer Mouret. La publicité en fait partie, mais je dirais moins que toutes les magouilles qu'il peut y avoir sur place, quoi, finalement. Mais il y a quand même la publicité, mais c'est une publicité médiatique, quoi. Donc, évidemment, on va pas aller chez... où est-ce qu'on va aller pour démarcher directement les gens, tu vois, à l'époque. Mais cette idée est juste une très bonne idée. Enfin, que je pense que c'est un spécialiste du marketing dans une... Puis les autres se sont engouffrés en se disant, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est d'aller, d'aller démarcher les médecins. Parce que toi, on sait très bien, moi je sais pas, hein, on en parlait tout à l'heure, quand on était gosses, nos parents revenaient avec des valises entières de médicaments quand on avait le moindre rhume. C'était un truc de malade, c'est le cas de le dire. Enfin bon.
Bien, on va passer une petite musique et on reprend.
C'est court.
quelques heures. C'est pas que je vais me faire soigner, je suis dans le verre. Le verre, dans le verre, dans le désert. C'est pas l'enfer, au contraire. Je vais rouler dans le verre. C'est pas que je vais me faire soigner, je suis dans le verre. Le verre, dans le désert.
C'était Courge, Loser en Lozère.
Donc c'est, on peut pas dire le groupe puisque normalement, enfin la plupart du temps il est tout seul. Oui. Donc c'est Matt Conture, le dessinateur de BD anarcho-punk. Que penses-tu du talent de Matt Conture de nier en toute objectivité, sachant qu'on est tous les deux, on peut dire que c'est du copinage, on le connaît personnellement tous les deux. Qu'est-ce que tu penses du talent de BD, en BD de Matt Conture, toi qui es toi-même dessinateur de BD?
Pour moi, c'est quelqu'un de très grand talent qui a un graphisme, un visuel assez underground, hein, qu'on peut reconnaître facilement. On sait, tiens, ça c'est du Matt Conture,
ça se reconnaît tout de suite. C'est vraiment très beau.
Et voilà,
En vente à Publico, d'ailleurs, je le dis souvent, mais je le redis, en particulier, sa BD, comme ses BD sont autobiographiques pour la plupart, sa BD Sclérose en plaques, où il raconte sa sclérose en plaques, et d'ailleurs ses mésaventures avec les médecins qui ont quand même vachement tardé à le diagnostiquer, et le fait que évidemment, c'est une maladie qui est normalement incurable et que toutes les mésaventures qu'il peut avoir eues par rapport à ça. Je pense que quand même, il faut essayer de voir. Donc, si vous allez à Publico, par exemple, vous cherchez sclérose en plaques.
Voilà. Et sinon, souvent, c'est autobiographique, hein, les récits. Mmh. Et il lui aurait arrivé aussi de faire apparaître des personnages plus fictionnels, tels que...
Comme Yvan Morve, par exemple.
Voilà, Yvan Morve, qui est l'anagramme de mort-vivant.
Oui,
Il y a Galopu, il y a Mister Vro, enfin voilà, des personnages qui courent.
Et puis il y a même des trucs un peu écolo, parce que c'est un anarcho-punk, en fait, écolo, qui là, il parle de la Lozère, c'est pas l'enfer, bien au contraire, parce qu'il raconte à quel point, en réalité, lui qui est toujours un peu comme un cheveu sur la soupe un peu partout, a trouvé un peu complètement sa place dans les communautés anarcho-punk de entre autres de Lozère, mais enfin à la campagne en général, quoi. Donc voilà, je fais juste une citation puisque on parlait de psy. Ben parce que Matt Conture, comme il est spécial, comme vous avez pu vous rendre compte, je pense, rien que dans sa chanson, eh bien, évidemment, il y a des gens qui pensent qu'il ferait mieux de se faire soigner. J'avais d'ailleurs cité quelqu'un qui lui avait dit ça dans une de ses BD, que comme à un moment donné, ça s'est bien arrangé après qu'il a réussi à trouver sa propre communauté, justement, entre autres en Lozère, mais il avait à un moment donné du mal à trouver une copine, et il y a une fille qui lui dit, oui, mais c'est à cause de tes cheveux, faut dire qu'il a une coiffure, si je vous invite à regarder Matt Conture en photo et vous allez comprendre l'idée. Mais en réalité, d'ailleurs, il les laisse pousser comme ça, mais enfin, il a une coiffure très spéciale, effectivement. Oui. Donc, elle lui dit, et je trouve que c'est significatif d'un certain genre de gens, puisqu'on parle de la psychiatrie, hein. Ouais, mais c'est normal, t'as vu comment t'es coiffé, pour moi, un mec qui est coiffé comme toi, il a pas tout réglé. Enfin, il n'a pas tout réglé, tu vois. C'est rien que l'idée, tu as vraiment envie de lui en mettre une à la gonzesse et tout. Donc, tu devrais te couper les cheveux, puis tu verras, ça marchera, quoi. Et lui, il répond, ah ouais, mais non, mais moi, je serais malheureux si j'aime bien mes cheveux, comme ça. Je serais malheureux. Ah bon, bah alors, reste dans ta merde, qu'elle lui répond. Et tu te dis, c'est incroyable, quoi. Et donc, juste une citation d'une de ces cases de BD, je ne sais même plus dans quel contexte c'était, ça devait être assez bizarre, de toute façon. C'était... Alors Jésus devint trop fou, je sais pas pourquoi ça me fait mourir de rire ce truc. Alors Jésus devint trop fou, son père lui mit des bigoudis. Voilà, c'est pas, ça me fait rire. Continue.
Voilà,
continue, oui, donc on va revenir à plus sérieux quand même. Bon.
Voilà, oui, c'est vrai que on retrouve cette capacité à délirer, comme on s'autorisait à le faire à certaines époques. Créatif, de création artistique, quoi.
C'est quelqu'un de très spontané, d'une manière générale. Donc, ces BD sont effectivement, ont un côté très, 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 très spontané, très impudique aussi, parce qu'ils racontent vraiment des choses très, très personnelles et très intimes, quoi. Et puis, ils ne se présentent pas sous. Contrairement à la plupart des gens qui font une autobiographie, il est loin de se présenter toujours sous un jour, sous le meilleur jour, quoi. Donc, ouais. Enfin, en tout cas, je vous recommande, franchement.
Voilà. Et puis aussi, c'est le monde des fanzines aussi, enfin, des. Il a permis la production de pas mal de choses underground, justement de publications underground très intéressantes. Voilà. Ouais. Eh bien, nous allons passer. Maintenant, on peut aborder la pièce Knock. C'est donc l'acte 2, la scène 1 de l'acte 2. On est dans les années 1920, comme on l'a
23,
dit.
23, je crois. Ouais. Le livre est... Voilà,
alors, c'est créé par Louis Jouvet en 1923. Knock est une des pièces les plus célèbres de Jules Romain. Il y a des tambours de ville. C'est-à-dire c'était le média de l'époque, en fait.
Voilà, dans les villages, on pouvait les payer cantons. Pour faire de la publicité.
On les payait pour transmettre des messages qui émanaient de différentes clientèles, même les autorités, comme le préfet ou le maire. Nous sommes dans l'ancien domicile de Parpalais. Alors, Parpalais, c'est le médecin qui est parti, qui n'avait que très peu de clients. Et où s'est installé.
En fait, il a escroqué Knock, parce qu'il lui a pas révélé qu'en fait, il lui a refilé vraiment un truc complètement pourri, puisque évidemment, quand il lui a vendu sa clientèle, il lui a caché qu'en réalité, les gens du coin, ils fréquentent absolument pas le médecin, et ils ont tous une santé de fer. Donc, a priori, même, enfin, quand ils vont pas bien, ils attendent que ça passe. Donc, franchement, Knock lui dit, vous m'avez complètement carrément escroqué.
Oui, c'est vrai. Ouais. Nous sommes dans l'ancien domicile donc de Parpalais, l'installation provisoire de Knock. Table, siège, armoire bibliothèque, chaise longue, tableau noir, lavabo. Quelques figures anatomiques et histologiques au mur. Alors, c'est la scène avec Knock et le tambour de ville. Knock, assis, regarde la pièce et il écrit. C'est vous le tambour de ville ? Le tambour, debout. Oui, monsieur. Knock. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur ou non, docteur. Le tambour. Oui, docteur. Knock. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous ? Le tambour. Nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Knock, ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur ? Le tambour. Non, monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Knock. Pourquoi Ravachol ? Le tambour. C'est un surnom qu'il avait, mais je n'ai jamais su pourquoi. Knock. Et vous ne le jugiez pas très fort. Le tambour. Oh, pour moi, il était bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Knock. Tiens, le tambour. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas. Knock. Qu'est-ce qu'il ne trouvait pas, le tambour? Ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant « Ce n'est rien du tout, vous serez sur pied demain, mon ami. » Knock. Vraiment ? Le tambour. Ou bien il vous écoutait à peine en faisant « Oui, 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 oui » et il se dépêchait de parler d'autre chose pendant une heure, par exemple de son automobile. Knock. Comme si on venait pour ça. Le tambour. Et puis il vous indiquait des remèdes de 4 sous, quelquefois une simple tisane. Vous pensez bien que les gens qui payent 8 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur indique un remède de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin du médecin pour boire une camomille. Knock. Ce que vous m'apprenez me fait réellement de la peine. Mais je vous ai appelé pour un renseignement. Quel prix demandiez-vous au docteur Parpalais pour quand il vous chargeait d'une annonce ? Le tambour, avec amertume. Il ne me chargeait jamais d'une annonce. Knock. Oh, qu'est-ce que vous me dites ? Depuis 30 ans qu'il était là ? Le tambour. Pas une annonce en 30 ans, je vous jure. Knock, se relevant, un papier à la main. Vous devez avoir oublié. Je ne puis pas vous croire. Bref, quels sont vos tarifs ? Le tambour. 3 francs le petit tour et 5 francs le grand tour. Ça vous paraît peut-être cher, mais il y a du travail. D'ailleurs, je conseille à monsieur, au docteur. Je conseille au docteur, s'il n'en est pas à 2 francs près, de prendre le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Knock. Quelle différence y a-t-il ? Le tambour. Avec le petit tour, je m'arrête 5 fois, devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la Clé, au carrefour des voleurs et au coin de la halle. Avec le grand tour, je m'arrête 11 fois, c'est à savoir, bien, je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin ? Le tambour. Tout de suite, si vous voulez. Knock. Voici donc le texte de l'annonce. Il lui remet le papier. Le tambour regarde le texte. Je suis habitué aux écritures. Mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Knock, lentement. Le tambour écoute d'une oreille professionnelle. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et à l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, et pour enrayer le progrès inquiétant de maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, le tambour, ça c'est rudement vrai. Knock. Il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Le tambour, recevant le papier avec respect. Eh bien, c'est une belle idée, une idée qui sera appréciée, une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Si je fais l'annonce ce matin, il va vous en arriver dans 5 minutes. Knock. Si vite que cela, vous croyez ? Le tambour. Et puis, vous n'aviez peut-être pas pensé que le lundi est jour de marché. La moitié du canton est là. Mon annonce va tomber dans tout le monde. Dans tout ce monde. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Knock. Je tâcherai de me débrouiller. Le tambour. Il y a encore ceci, que c'est le jour du marché que vous aviez le plus de chances d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en voyait guère que ce jour-là. Si vous les recevez gratis... Knock. Vous comprenez, mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Le tambour. Ah, vous avez mis le doigt dessus. On ne se soigne pas assez. On ne veut pas s'écouter et on se mène trop durement. Quand le mal vous tient, on se force. Autant vaudrait-il être des animaux. Knock. Je remarque que vous raisonnez avec une grande justesse, mon ami. Le tambour se gonflant. Oh, sûr que je raisonne, moi. Je n'ai pas l'instruction que je devrais. Mais il y en a de plus instruits qui ne m'en remonteraient pas. Monsieur le maire, pour ne pas le nommer, en sait quelque chose. Si je vous racontais qu'un jour, monsieur docteur, qu'un jour, monsieur le préfet en personne se trouvait à la mairie dans la grande salle des mariages, et même que vous pourriez demander attestation du fait à des notabilités présentes, à monsieur le premier adjoint pour ne pas le nommer, ou à monsieur Michalon, et qu'alors monsieur le préfet a vu tout de suite à qui il avait affaire, et que le tambour de ville était un tambour qui résonnait mieux que d'autres, qui n'était pas tambour, mais qui se prenait pour quelque chose de bien plus fort qu'un tambour. Et qui est-ce qui n'a pas su quoi dire? C'est monsieur le maire. Le tambour extasié. C'est l'exacte vérité. Il n'y a pas un mot à changer. On jurerait que vous étiez là, caché dans un petit coin. Knock. Je n'y étais pas, mon ami. Le tambour. Alors c'est quelqu'un qui vous l'a raconté, et quelqu'un de bien placé. Knock fait un geste de réserve diplomatique. Vous ne m'ôterez pas de la tête que vous en avez causé récemment avec monsieur le préfet. Knock se contente de sourire. Knock se levant. Donc, je compte sur vous, mon ami. Et rondement, n'est-ce pas ? Le tambour, après plusieurs hésitations. Je ne pourrais pas venir tout à l'heure ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant ? Knock. Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec monsieur Bernard, l'instituteur, et avec monsieur le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous ? Le tambour. Attendez que je réfléchisse. Voilà, quand j'ai dîné, il y a des fois que je me sens une espèce de démangeaison ici. Il montre le haut de son épigastre. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille. Knock d'un air de profonde concentration. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille ? Le tambour. Ça me gratouille. Il médite. Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Knock, désignez-moi exactement l'endroit. Le tambour. Par ici. Knock, par ici. Où cela ? Par ici. Le tambour. Là, ou peut-être là, entre les deux. Knock, juste entre les deux ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt ? Le tambour. Il me semble bien. Knock, ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt ? Le tambour. Oui, on dirait que ça me fait mal. Knock. Ah ah ! Il médite d'un air sombre. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette ? Le tambour. Je ne mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Knock. Ah ah ! Très important. Ah ah ! Quel âge avez-vous ? Le tambour. 51 ans, dans mes 52. Knock. Plus près de 52 ou de 51 ? Le tambour, il se trouble peu à peu. Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Knock, lui mettant la main sur l'épaule. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites. Mais ne le dites pas, c'est une faveur. Le tambour, avec anxiété. Vous êtes trop bon, docteur. Mais c'est donc grave ce que j'ai ? Knock. Ce n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez ? Le tambour, tirant son mouchoir. Non, je chique. Knock. Défense absolue de chiquer. Vous aimez le vin ? Le tambour. J'en bois raisonnablement. Knock. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié ? Le tambour. Oui, docteur. Le tambour s'essuie le front. Knock. Sagesse totale de ce côté-là, hein ? Le tambour. Je puis manger ? Knock. Aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous à ce que je vous ai dit. Le tambour s'essuie à nouveau. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux que je me couche tout de suite ? Je ne me sens réellement pas à mon aise. Knock, ouvrant la porte. Gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Faites vos annonces comme si de rien n'était et attendez tranquillement jusqu'à ce soir. Le tambour sort, Knock le reconduit. Voilà, donc c'était notre extrait de Knock de l'entonnoir.
Juste une parenthèse, c'est dans Knock, et d'une manière générale, on se pose aussi la question, on voit la responsabilité évidemment de toute la chaîne des escrocs, mais on peut se poser aussi la question des fois de la naïveté, de la naïveté des patients, et d'ailleurs, souvent, les médecins se dédouanaient en disant, mais... c'est les clients, enfin les patients qui demandent, qui sont pas contents si on les blinde pas de médicaments. En même temps, franchement, c'est la poule et l'œuf, parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'on est quand même un peu formaté à se dire qu'on n'y arrivera pas sans médicaments. Donc ils ont quand même beau jeu de après t'avoir bourré le crâne de prétendre que c'est ta faute. Mais j'ai trouvé que quand même dans Knock, on présente vraiment les comme c'est un peu des gens de la campagne, quoi, qu'on les présente un peu comme des crétins, hein, je veux dire, malgré tout.
Oui,
qui se laisse même là, le mec, il a l'air... Enfin, il n'est pas présenté sous un jour très, très...
Favorable.
Très, très favorable.
Effectivement. Ouais, eh bien... je n'ai pas de grand-chose à rajouter à ça.
Peut-être encore un petit mat de conture, hein, si tu en as un.
Allez. Donc, courge sur Radio Libertaire 89.4. C'était la chanson con, courge. Et c'est comme ça qu'on vous dit au revoir.
Au revoir.
Et on va passer maintenant à la mission suivante, qui est Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Dans quelques minutes, secondes.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Condorcet n'est pas proprement dit un anarchiste, mais il a développé un certain nombre d'idées qui sont intéressantes, et en particulier sur le despotisme. Nous allons écouter aujourd'hui dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France de Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître, sans publicité, et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Nous allons écouter, je vous dis, un livre qu'il a écrit sur l'idée sur le despotisme. Et nous allons voir que cela nous pose un certain nombre de questions à nous anarchistes. Et cela nous permet de rebondir un peu sur cette notion et sur le fait que ni Dieu ni Maître sont quelque chose d'absolument important pour nous. Voilà. Tout de suite un petit peu de musique et après le Condorcet.
Vive le son.